Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Aujourd'hui, c'est la journée des aidants. Il y aurait en France près de 11 millions d'aidants, que ce soit pour des proches malades, âgés ou handicapés. Ces aidants, on en parle assez peu. Certains n'ont même pas conscience d'être des aidants. Nathalie Lévy, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes journaliste, on vous a vu sur BFM TV pendant de nombreuses années. Vous publiez Courage au cœur et Sac au dos. Prendre soin de ses aînés, c'est paru aux éditions du Rocher. C'est tout d'abord un magnifique portrait de votre grand-mère. Ce livre, c'est un livre qui parle de la famille, de la transmission, du lien qu'il peut y avoir dans certaines familles et de la manière dont vous, votre maman, votre tante, vous êtes retrouvés à vous organiser de façon presque militaire, j'ai envie de dire, enfin, quoique le terme tranche un petit peu avec l'amour qui se dégage du livre, mais cette organisation que vous avez mise en place pour vous occuper de votre grand-mère. Donc déjà, comment va-t-elle aujourd'hui et quel âge a-t-elle?
Valérie, elle a 98 ans et demi, ouais. 99 en janvier. Et pour tout vous dire, alors sur le plan physique, purement physique, c'est compliqué.
Ouais.
Elle passe du lit au fauteuil roulant. Sur le plan cognitif et intellectuel, elle fonctionne bien parce que elle est très au fait de ce qui se passe autour
du
livre.
Elle vous suit dans la promo.
Ouais. Et en fait, je suis assez heureuse parce que on peut me dire et on peut me reprocher sur les réseaux et je peux complètement l'entendre que c'est très impudique. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis moi-même. Hein, je le concède volontiers. On me dit mais pourquoi vous exposez ça, etc. Les critiques sont là. Hein, elles sont bien présentes.
Il y a eu des critiques,
ah oui. Oui, sur les réseaux, il y en a toujours. Oui. Donc j'entends que ça puisse choquer, mais mon témoignage au départ, c'est effectivement pour lui rendre hommage, ni plus ni moins. Ça devait sortir il y a quelques mois, on était 13 ans de ça, 13 ans avant de cette journée nationale des aidants, ça aurait pas eu le même écho.
Ouais.
Et là, il s'avère que ça prend cette dimension parce que cette actualité, ouais. Parce qu'on est post-effectivement hécatombe dans cette première vague du Covid, et voilà.
Ouais, et en même temps, c'est la 11e journée des aidants, c'est ça. Et je trouve que dans la presse, que je vous disais quand vous êtes arrivé, à part le Figaro qui consacre un grand dossier, il y a eu Le Monde hier qui a fait aussi un très grand dossier, mais Le Parisien, Libération, enfin tous ces journaux n'en ont quasiment pas parlé. On entend très peu parler, même sur les différents médias. Il y a quoi ? Il y a ces aidants, c'est un petit peu ce qui ressort du livre, c'est qu'ils sont invisibles et on les prend assez peu en compte.
Vous savez, je crois qu'en fait on est dans une survalorisation idéologique du jeune par rapport au vieux déjà.
Ouais.
Et du coup, les aidants, comme ils sont associés aux vieux, pour beaucoup, parce qu'il y a aussi, il faut le rappeler, c'est très important d'ailleurs de le mentionner, les aidants, un enfant handicapé, les parents sont des aidants, une personne touchée par un accident, on devient aidant, et ça peut être à n'importe quel âge. Donc il y a toutes sortes d'aidants, il n'y a pas que les aidants liés aux seniors et aux anciens, mais effectivement, on est dans une société du jeunisme, et comme la jeunesse est une sorte de critère de valeur, et les aidants associés de toute façon, de fait, quand même plus aux anciens, c'est pas très glamour, c'est pas très vendeur, c'est pas très productif tout ça.
Ouais.
Et donc on n'en parle pas. Et puis les aidants, ce sont ces invisibles qui font tout, qui sont capables d'être partout à la fois, mais effectivement qui font très peu de bruit.
Ouais, et qui s'organisent tout seuls, quoi. C'est aussi ce qui c'est quand on décide de s'occuper, là dans votre cas c'est de votre grand-mère, mais quand on décide de, ou qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de s'occuper d'un proche comme ça, ça bouleverse complètement et la vie personnelle, la vie professionnelle. On va en parler. Sophie Cluzel ce matin annonçait dit que le président de la République est très concerné, ainsi que Madame Macron, mais ça bouleverse toute la vie de ceux qui sont là et qui sont épuisés. C'est ce que vous racontez aussi dans le livre. Vous craquez à certains moments.
Oui, et encore, vous l'avez dit, je crois, j'ai vraiment un privilège inouï.
Oui,
d'abord, on est un trio. Voilà, on est un trio, donc ça forme vraiment un quatuor avec mamie à l'intérieur. Et puis, on a maintenant le soutien aussi d'aide d'auxiliaires de vie, ces AVS, qui sont des femmes extraordinaires, qui sont dans une dévotion, dans une bienveillance pour beaucoup d'entre elles, qui sont mésestimées, qui sont sous-valorisées, qui sont très mal payées, et aujourd'hui qui nous prêtent main forte parce qu'on ne pourrait pas s'en sortir.
Ouais.
Il faut un soutien de nuit aussi pour ma grand-mère. Mais effectivement, ces aidants, ses aidants familiaux et ses aidants professionnels. Les aidants familiaux, c'est des vies qui sont chamboulées. Vous savez, Valérie, il y a en moyenne 220 kilomètres entre un aidant et un aidé. En région, typiquement, quand vous avez votre grand-parent, votre mère ou que sais-je, eh ben, il faut parcourir plus de 200 kilomètres. Ça veut dire l'essence, ça veut dire la fatigue, ça veut dire la fatigue nerveuse, ça veut dire l'organisation. Et donc, pour ces aidants familiaux, c'est un sacerdoce. Outre, effectivement, l'anxiété de l'aider ou son agressivité, parfois, parce qu'il est dans une forme de confinement à domicile, quand il est très dépendant. Et donc, ça engendre, effectivement, chez lui, une grande anxiété, une grande nervosité, voire agressivité, qui est reportée sur l'aidant, qui, du coup, est exsangue, et qui, donc, doit jongler. Et ce sont des mots physiques, des mots moraux, et une grande lourdeur, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Alors, maintenant, il y a ce congé aidant, mais c'est un petit pas.
Oui, c'est un tout petit pas. Mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé très, très, très digne. Au contraire, votre livre, je n'ai pas trouvé que c'était impudique. Je l'ai trouvé digne et vous dites les choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où votre grand-mère, elle est désagréable. Et les personnes âgées peuvent être désagréables aussi. Et vous évoquez aussi un sujet dont on parle très peu sur les aidants à domicile et sur ce qui se passe. Parce que tout le monde, beaucoup de gens ont envie de garder leurs proches près d'eux. Encore une fois, ne parlons pas que des personnes âgées, mais la qualité des AVS n'est pas toujours au rendez-vous. Et vous dites, vous venez de le dire, c'est pas assez valorisé, mais il y a une maltraitance aussi des personnes âgées. Vous donnez l'exemple d'une voisine dont les dents arrivent très tard pour les repas. Et ça, on n'en parle pas du tout de cette maltraitance à domicile.
Oui, vous savez, c'est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai pu assister à des scènes quand même assez édifiante ou une dame âgée qui est ma voisine est effectivement laissée quasiment nue sur son lit parce qu'elle fume sa cigarette ou elle est au téléphone, cette aidante, cette auxiliaire de vie. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité de la part du gouvernement d'abord de revaloriser cette profession et cette filière parce que sans cette revalorisation, on n'aura pas des personnes impliquées et on n'aura pas, en fait, vous savez, c'est toutes ces agences de services qui fleurissent un peu partout en France, ces agences de services à la personne dans lesquelles, malheureusement, les dirigeants de ces agences, les responsables ne vont pas toujours dans les foyers pour accompagner l'aidant, l'auxiliaire de vie, pour voir quel est le type de foyer, quels sont les besoins, comment on organise ça, est-ce que l'aidant correspond bien à l'aider, etc., etc. Ce travail-là, il est indispensable, c'est un préalable nécessaire. C'est comme un casting, en ce qu'il faut faire avec ces auxiliaires de vie, mais ça passe aussi par cette revalorisation. Et plus globalement, cette filière du care, si demain elle n'est pas revalorisée, c'est un peu comme si on les abandonne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on abandonne nos vieux, en fait. Parce que toute cette filière-là, elle s'occupe de nos anciens, elle s'occupe de nos faibles, de nos handicapés. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, on les sous-estime et donc on leur donne pas le personnel qui va avec.
Oui, c'est toujours plus ou moins un secteur qui est quand même laissé à l'abandon depuis des années, que ce soit pour les enfants malades, handicapés. Et c'est vrai que vous le dites dans le livre, la société n'a pas anticipé le vieillissement des baby-boomers. C'est-à-dire que on va se retrouver avec de plus en plus de personnes âgées et toute cette filière-là, elle est pas organisée. On le voit dans les EHPAD. On parle beaucoup des EHPAD. Où on manque de personnel, où il y a une infirmière pour 4 étages. Enfin, on a fait plusieurs émissions sur le sujet, mais globalement, il n'y a pas de vision sur le long terme de ça. Donc, de quoi ils ont besoin les aidants aujourd'hui ?
Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Si on peut dire un mot sur les EHPAD, moi il ne s'agit pas du tout de tirer sur l'ambulance.
Non.
Je pense que clairement les EHPAD sont une nécessité, ces établissements publics ou privés. Ouais. Alors évidemment il y a de tout, il y a du bon et du moins bon. Il y a ces EHPAD vraiment de très bonne qualité. Et puis souvent en région d'ailleurs, dans les territoires où on est dans une forme de militantisme de la part des soignants qui sont à l'intérieur, de ces aides-soignantes, de ces infirmiers, qui travaillent vraiment avec conviction chevillée au corps, etc. Donc il y a des choses très bien, il y a aussi des coûts astronomiques dans ces EHPAD. Et puis, qu'est-ce qu'il manque? Il manque peut-être d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire au Danemark, par exemple, où ils sont très précurseurs.
Les pays du Nord,
ou même le Japon. Alors, le Japon, le bouleversement s'est fait sur le plan de la démographie, c'est déjà fait il y a un moment. Et donc, ils ont pris en compte le fait que la population vieillissait. Et donc aujourd'hui, au rez-de-chaussée de ces établissements, on trouve des garderies. par exemple, ouais. ou des restaurants au Danemark, ou des salles de sport qui sont accessibles à tous. Donc les anciens, ils voient cette vitalité, ils voient cette vie, ils peuvent y avoir accès. Alors je dis pas qu'ils vont faire des pompes, il s'agit pas de ça, mais ils voient ce qui se passe, ils voient la vie. Et les établissements, maisons de retraite et pas de Danemark sont dans la cité et pas hors les murs, pas excentrés. Alors, ça veut dire qu'il y a une vie, qu'il y a une sociabilisation, il y a un intergénérationnel. Voilà, et je pense que bah, c'est pas si loin le Danemark. On peut peut-être aller jeter un œil et mais prendre ça, les bonnes idées.
Mais les bonnes idées, elles sont là, on les connaît. Ouais. C'est quoi ? C'est un manque de volonté politique. C'est
je
quoi ?
Pense qu'il y a un manque de courage, ouais.
Il y a un manque de courage sur ces sujets-là.
Mais il y a un manque de courage, il y a un manque d'envie, il y a des choix qui ont été faits. On capitalise sur le jeune. Le jeune, il dépense. Le jeune, il est productif. Le jeune, il est rentable. Le jeune, c'est l'avenir. Le jeune, c'est demain.
Sauf qu'il y a un problème de société qui va se poser.
Exactement.
Avec le vieillissement de la population. Donc, aujourd'hui, vous l'évoquez dans le livre, il y a 17 mesures qui sont proposées. mais on voit rien que c'est. Cette année, je crois que le thème, c'est le répit, c'est ça, c'est la maison du répit.
Moi, je suis un peu dubitatif sur ce format, parce que quand on est aidant et même quand on est un ancien, est-ce qu'on va se trimballer avec son ancien sous le bras 3 jours dans une maison du répit à 100 km de chez soi pour se retrouver avec des aidants dans un espèce d'endroit qui est un peu hybride. Je pense que c'est pas tout à fait la bonne formule. Je pense qu'en revanche, effectivement, revaloriser les auxiliaires de vie, parce que vous savez, Valérie, 92% des gens veulent finir leur jour chez eux.
Mais oui.
C'est un béaba, non ? Ça semble une évidence de vouloir partir dans ces meubles, dans ces photos de famille, etc. Donc, si on veut que ce soit possible pour nous, parce que demain, nous, nos enfants ne pourront pas nous prendre en charge, ils auront déjà nos dettes.
Ça coûte très cher, il faut le dire.
Donc, si on revalorise, si l'État met évidemment la main au porte-monnaie pour revaloriser ces personnels-là, là, on aura peut-être une chance, puisque 2060, un tiers de la population aura plus de 60 ans, de pouvoir finir nos jours dans les meilleures conditions.
Oui, un budget de 400 millions d'euros sur 3 ans pour accompagner ces aidants qui, je le disais en introduction, n'ont pas conscience parfois d'être des aidants. C'est ça aussi qui ont cette charge. Vous encore une fois, vous racontez et je trouve que à ce titre-là, c'est intéressant. Vous racontez de façon très personnelle comment ça a bouleversé même votre vie professionnelle. Comment vous êtes organisé pour aller la voir le matin, le midi. Et c'est pas un effort, c'est-à-dire que c'était naturel dans votre famille. Votre grand-mère est née en Algérie. Il y a un lien très fort dans votre famille. C'est pas le cas de toutes les familles.
C'est pour ça que je parle de privilèges et que souvent, très souvent maintenant, dans toute la promotion qui est faite autour du livre, et merci de me donner la parole d'ailleurs, mais je trouve ça quand même très immodeste et très impudique parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. On est dans un format matriarcal où la sororité.
Et sont souvent des femmes.
Voilà. De toute façon, 57% sont des femmes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. J'ai une grand-mère qui est encore vaillante intellectuellement, qui nous aime infiniment et depuis toujours. Donc c'est beaucoup plus facile de s'occuper de quelqu'un avec qui ça fonctionne,
on peut échanger. Mais quand effectivement...
Mais voilà, quand il y a un Alzheimer, quand il y a vraiment une perte de repères, etc., évidemment que le compte n'y est pas et qu'on a besoin peut-être de placer cette personne ou de s'organiser autrement. Nous, on a toujours ce lien intellectuel et donc on peut pas la trahir et la placer ou se mettre à distance d'elle. Mais voilà, les aidants... C'est une dynamique qui est compliquée, c'est difficile de se reconnaître dans ce statut. Est-ce qu'on est aidant parce que combien d'heures on passe avec cette personne ? Il est compliqué de ce statut d'aidant, il est compliqué à définir.
Quelques remarques. Claudie nous dit il est important de s'occuper de nos anciens, c'est une société bien triste que de les abandonner comme la société actuelle le fait. Et une autre, Brigitte, nous disait qu'elle avait lu hier qu'un couple de 80 ans était mort, la femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer, l'homme a tué sa femme et s'est suicidé après. Et c'est vrai que la maladie d'Alzheimer en particulier, c'est une charge terrible pour celui qui est là, parce que, comme vous le disiez, il n'a plus toute sa tête et que c'est très compliqué à gérer.
Bien sûr, quand on est comme ça en distance intellectuelle et cognitive et qu'il n'y a plus de lien, c'est ça.
Ce que vous dites également, sans aller jusqu'au Danemark, c'est que il n'y a même pas de guichet unique en France. C'est-à-dire que vous racontez ce labyrinthe absolument hallucinant quand on est confronté à ça, qui est dingue. C'est-à-dire, selon que vous avez un enfant handicapé, exactement, une personne âgée, un accidenté, il n'y a pas.
C'est pas chapeauté, effectivement. Il n'y a pas une lecture évidente. On ne sait pas. Il y a énormément d'associations aussi, que je voudrais saluer d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire et qui essayent de mettre en place différents dispositifs. Il y a des dispositifs en fait, il y en a plein, mais vous savez, c'est comme le millefeuille administratif. On est un peu pareil dans le cas des aidants. Il y a des possibilités, il y a des choses qui sont faites, il y a des avancées, mais tout est comme ça, un peu tentaculaire, un peu désordonné, et c'est très compliqué tant pour les handicapés que pour les seniors. Et puis vous savez, d'un mot sur le congé aidant.
Oui, le congé aidant, c'est ce que dit aussi Brigitte. Mais... les congés familiaux pour s'occuper d'une personne malade en fin de vie n'est que de 3 mois, ce n'est pas
mais
assez.
Oui, c'est ça. Je voudrais juste dire un truc. D'abord, c'est très important. C'est un premier pas et il faut saluer ce premier pas. Maintenant, l'indemnisation de ce congé aidant de 3 mois fractionnable, ce qui veut dire qu'on peut prendre une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, il y a 2 choses. D'abord, quand on a un enfant handicapé, c'est à vie, hein, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce qu'on fait de 3 mois? C'est rien. Ensuite, quand on a un parent qui va être touché par Alzheimer et que ça va démarrer à l'âge de 56 ans, par exemple, je dis n'importe quoi, et que ce parent va être en vie jusqu'à 78, pareil, 3 mois, qu'est-ce que vous en faites ? C'est rien. Cette indemnité, 43 à 52 euros, selon que l'on soit en couple ou une personne célibataire, c'est 43 à 52 euros, vous faites le calcul par mois, ça représente 800 euros par mois. Sachant que le salaire de l'aidant n'est pas maintenu, qu'est-ce que vous faites de 800 euros par mois quand vous êtes une personne modeste ?
Impossible.
Impossible. Donc, qui va prendre ce congé aidant ? Ben, il y en a peu. Parce que les modestes le feront pas. Ils n'auront pas la possibilité de le prendre. Les plus aisés, ben, ils n'en auront pas besoin. Donc, ils n'auront pas recours à ce congé aidant. Donc, il y a quand même un vrai souci. Cette indemnité, on est quand même dans une forme de... je sais pas, de misérabilisme, non?
Oui,
me semble-t-il, le compte n'y est pas, en tout cas.
De pansement sur une jambe de bois. Voilà. C'est un peu ça. Nine nous dit, mais aidante de mon fils polyhandicapé, on se sent abandonné par la société, un labyrinthe administratif, abandon concernant le suivi médical. Romain nous dit, c'est peut-être aussi une question d'individualisme. La conception de la famille a beaucoup évolué. La démographie des baby-boomers est relativement conséquente. Les futurs vieux sont démographiquement plus vieux. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre qui va falloir.
Il va falloir répondre.
Mais c'est quoi l'urgence pour vous ? Qu'est-ce que demain vous auriez Sophie Cluzel dont vous parlez,
oui,
hein, qui est très combattante et qui
Alors,
est très active.
Il y a deux femmes dans ce dossier, effectivement.
Qui est là et vous l'auriez en face de vous aujourd'hui. Vous lui diriez quoi ?
Il y a Brigitte Bourguignon qui est désormais la secrétaire d'État aux solidarités et Sophie Cluzel qui est chargée des handicapés. J'ai rencontré Brigitte Bourguignon. Je lui dis voilà, 3 mois, c'est insuffisant. Bien sûr, c'est un premier pas, mais il faut arrêter d'être dans l'incantation aidons les aidants. C'est bien une journée nationale, mais bon, la presse n'en part pas.
Peu.
Vous l'avez dit, Valérie. Et puis demain, voilà. Donc non, il y a une urgence, c'est revaloriser un peu plus encore ce congé, parce que c'est impossible aujourd'hui. Et puis donner un vrai statut aux auxiliaires de vie. Et puis sans doute passer par la décentralisation. Je pense que c'est une question qu'il faut voir au territoire. Dans les territoires, on sait combien on a de seniors, on sait quels sont les besoins. Il faut arrêter de penser tout depuis Paris, non ?
Oui, ça c'est...
peut-être.
C'est tout à fait vrai. Courage au cœur et sac au dos. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. C'est paru aux éditions du Rocher, Prendre soin de ses aînés. À la fois, c'est une histoire de famille. C'est un livre, encore une fois, très digne et très, très touchant sur l'amour, le lien très fort que vous avez avec votre grand-mère et puis sur ces moments parfois difficile qu'on peut rencontrer quand on est aidant. Merci beaucoup Nathalie Lévy d'être venue ce matin sur Sud Radio. On se retrouve nous dans un instant avec vous pour débattre. À tout de suite.